Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 25 septembre 2024. Deuxième jour du débat général de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, appelle à des sanctions contre le Rwanda. Israël continue de pilonner le Liban. Le Hezbollah dit avoir ciblé le Mossad à Tel Aviv. En République démocratique du Congo, protestation devant le palais de justice de Kinshasa pour exiger la libération des prisonniers politiques. En Afrique de l'Ouest, selon Reporters sans frontières, des violences sont exercées sur les animateurs des radios locales. À suivre également ce soir, le Premier ministre guinéen.
Nous allons, après le référendum constitutionnel, nous irons directement à la présidentielle pour parachever ce processus qui, pour la mise en force des institutions de la République, nécessite que le pouvoir exécutif soit démocratiquement installé.
Baouri en interview exclusive sur VOA Afrique dans la partie magazine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. C'est la deuxième journée du débat général de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Des chefs d'État africains se sont à nouveau relayés à la tribune de l'ONU pour le traditionnel discours et pour plaider pour des réformes. Retrouvons tout de suite Alexandrine Ollognon, notre envoyée spéciale à New York.
Bonsoir Jean-Roger, vous l'avez dit, l'un des discours phares de dirigeants africains pour cette matinée est bien celui du président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui s'est exprimé il y a quelques instants. Il a insisté sur le rôle de l'ONU en cette période critique du multilatéralisme et il a réclamé à la communauté internationale des sanctions ciblées contre le Rwanda, qu'il accuse de soutien à la rébellion du M23 dans l'est de la RDC. Écoutons-le.
La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent, avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire.
Avant le président de la RDC, celui du Ghana, Nana Akufo-Addo, a été le premier chef d'État africain à prendre la parole ce matin à la tribune de l'ONU pour ce deuxième jour du débat général. En faisant référence au thème de cette 79e session, ne laissez personne de côté, c'est le thème choisi pour cette session. Nana Akufo-Addo a affirmé que l'Afrique en particulier sait ce qu'il en coûte d'être laissé de côté. Il a évoqué les richesses du continent, mais aussi ses nombreux défis, notamment le désavantage d'un système mondial. Il a critiqué l'aide offerte au continent, une aide souvent assortie de conditions, ce qui, selon le président ghanéen, limite la capacité de l'Afrique à façonner son avenir. Les Africains ne demandent pas le monde, ils réclament des opportunités, a affirmé Nana Akufo-Addo.
Alexandrine, d'autres chefs d'État africains doivent prendre la parole au cours de ce deuxième jour du débat.
En effet, les discours à la tribune de l'ONU se poursuivent. La Guinée-Bissau, le Mozambique, le Libéria, le Botswana, le Tchad, le Togo sont au menu des discours de ce jour. Et l'un des discours attendus de la journée est sûrement celui du chef d'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, qui fait ses débuts à la tribune de l'ONU. Son discours est attendu au regard des défis liés à la sécurité et à la démocratie dans la sous-région ouest-africaine, avec notamment la situation dans le Sahel et aussi de l'ampleur de la crise migratoire que connaît le Sénégal. On en parlait il y a deux jours, un bateau a été découvert avec une trentaine de corps en état de putréfaction. Un nouveau drame qui vient s'ajouter au lot de disparitions de bateaux de migrants sur les côtes sénégalaises. C'est Jean-Roger.
Alexandrine Ollognon, envoyée spéciale VOA Afrique à New York. On poursuit ce journal. Le Hezbollah a tiré un missile vers Tel Aviv qui a été intercepté. L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes aériennes meurtrières contre le mouvement islamiste au Liban. La communauté internationale redoute un embrasement. Claire Morin-Gibou.
L'armée israélienne a affirmé avoir frappé plus de 280 cibles du Hezbollah, dont 60 sur des services de renseignement et des lanceurs de roquettes. 51 personnes ont été tuées et plus de 220 blessées, selon les autorités libanaises. Un peu plus tôt, le Hezbollah a tiré un missile sol-sol vers Tel Aviv, mais a été intercepté par l'armée israélienne. La Maison-Blanche a qualifié de vivement inquiétante cette attaque, estimant qu'une issue diplomatique est toujours possible. L'armée israélienne a annoncé le rappel de 2 brigades de réserve qui vont être déployées dans le nord. Son chef d'état-major, le général Herzi Aleva, a dit à des soldats lors d'un exercice à la frontière nord de se préparer à une possible entrée au Liban. Le premier ministre Benjamin Netanyahou repousse son voyage à New York. Il partira pour son discours à l'ONU demain au lieu de ce soir et reviendra samedi, a indiqué son bureau dans un communiqué. Israël pousse la région vers une guerre ouverte, ont averti les chefs de la diplomatie d'Égypte, d'Irak et de Jordanie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, l'opposition intensifie la pression, plaçant la question des prisonniers politiques au cœur du débat national. Les opposants accusent le régime de Félix Tshisekedi de mener une répression systématique. Le point avec André Ndambi à Kinshasa.
À Kinshasa, l'opposition congolaise et quelques activistes de la société civile s'est mobilisée aujourd'hui devant le palais de la justice. Les revendications, la libération immédiate des prisonniers politiques.
Aujourd'hui, personne ne doit tolérer l'injustice. Donc nous voulons la libération de nos camarades activistes, Jacques Sinzaera et autres. Nous voulons la décrispation politique qui va se caractériser par la libération des opposants tels que Kabound, Kikuni, Daniel Safou, Moukebaï.
Lors de la remise des mémos au ministre Moutamba, l'opposant Don Dombasi a fermement dénoncé certains actes infligés, dit-il aux opposants dans les cachots de l'ANR et de la DEMIAP.
Et nous demandons aussi justice pour un cas choquant, celui de l'opposant politique Jacques Ndala, qui s'est fait violer dans les géoles de la mer. Il s'est fait sodomiser, un acte inacceptable dans ce pays qui se dit démocratique.
Les manifestants dénoncent ce qu'ils considèrent comme une dérive autoritaire du régime et l'utilisation des institutions judiciaires pour museler toute opposition. André Ndambi pour VOA Afrique, Kinshasa.
Plus de 500 radios locales d'Afrique de l'Ouest ont lancé hier mardi à Bamako un appel à la protection de leurs collègues au Sahel, souvent les seuls journalistes encore présents sur le terrain où ils subissent assassinats et enlèvements, a indiqué Reporters sans frontières. Le point avec Eric Manirakiza.
Il est important que le Sahel ne devienne pas ce trou noir de l'information, a déclaré Sadibou Marang, directeur du bureau Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières. Les journalistes disent voir les membres de groupes armés intervenir auprès d'eux pour changer le contenu des programmes, voire prendre possession de l'antenne, a rapporté M. Marang. Les radios dites communautaires du Sahel diffusent à moyenne portée des nouvelles de proximité sur la santé, l'éducation, l'agriculture, généralement dans les langues locales. Elles jouent un rôle éminent dans un contexte d'accès restreint à l'information. Elles opèrent dans un environnement dégradé, de vastes zones souvent reculées, étant livrées à la propagation djihadiste et aux agissements des groupes armés au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Tchad. RSF note l'incapacité des États à assurer leur protection.
La justice béninoise a annoncé ce mercredi l'arrestation du commandant de la garde républicaine, d'un ancien ministre et d'un homme d'affaires soupçonné d'avoir planifié un coup d'État dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Il apparaît que le commandant de la garde républicaine ayant en charge la sécurité du chef de l'État a été entrepris par le ministre Oswald Omeki pour son compte et celui de M. Olivier Boko à l'effet d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024, a déclaré le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme au Bénin. Le corps d'un colonel guinéen mystérieusement disparu il y a presque un an a été présenté hier à son épouse à la morgue de Conakry, a été présenté aujourd'hui. Et la femme et les avocats du colonel Célestin Bilavogui se disaient sans nouvelles de lui depuis son arrestation par des gendarmes en novembre 2023. Il est le deuxième officier en quelques mois à mourir dans des circonstances obscur. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Jacques Aristide.
Le constructeur aéronautique brésilien Embraer indique dans un communiqué ce mercredi que l'Afrique du Sud est en pourparlers pour l'achat du C390 Millennium, avion cargo militaire présenté pour la deuxième fois lors du récent salon africain de l'aéronautique et de la défense à Pretoria. Un accord potentiel représenterait la première vente du C390 à un pays africain. L'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, appelle notamment à augmenter la fiscalité sur le patrimoine pour maîtriser les dettes publiques qui s'alourdissent à travers la planète et retrouver des marges de manœuvre face à de futurs chocs. Elle a atteint un record de 97 000 milliards de dollars en 2023, selon un rapport des Nations Unies publié en juin, soit un quasi-doublement depuis 2010. Le gouvernement américain poursuit l'émetteur de cartes de paiement Visa pour pratiques anticoncurrentielles aux États-Unis. Dans cette plainte déposée devant un tribunal de New York, les autorités américaines accusent Visa d'abuser de sa position dominante pour imposer des accords d'exclusivité aux banques et aux commerçants et de maintenir son monopole en concluant des accords de non-concurrence avec des rivaux potentiels. L'entreprise a réagi dans un communiqué de sa conseillère juridique, Julie Rothenberg. Ces poursuites sont infondées et nous nous défendrons vigoureusement, a-t-elle déclaré.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
L'Égyptien Zizo veut gagner la Ligue des champions avec le Zamalek.
Oui, dans une interview accordée à cafonline.com, Ahmed Mostafa Sayed, surnommé Zizo, a déclaré que le match de la Super Coupe entre le Zamalek et son rival historique Al Ahly, ce vendredi à la Kingdom Arena de Riyad en Arabie Saoudite, sera particulièrement intense. Il dit vouloir remporter cette deuxième Super Coupe et dit compter sur l'enthousiasme des supporters pour offrir une grande motivation aux joueurs. Selon lui, les fans du Zamalek attendent avec impatience ce titre. Depuis son arrivée en 2019 au Zamalek, il affirme avoir eu la chance de contribuer à plusieurs succès du club et vouloir continuer à enrichir le palmarès du Zamalek.
Kylian Mbappé est blessé à la cuisse gauche.
L'attaquant français, sorti touché hier à la fin du match de Liga face à Alaves battu 3-2, souffre d'une blessure musculaire à la cuisse gauche, selon l'annonce faite par le Real Madrid. Auteur de son cinquième but en sept journées de championnat, Mbappé a demandé à sortir à la 80e minute. Après un nouveau match plein, selon des médias espagnols, il pourrait être indisponible pendant 3 semaines et manquera donc le derby madrilène de dimanche face à l'Atlético Madrid en championnat, ainsi que le déplacement à Lille en Ligue des Champions le 2 octobre. Le capitaine de l'équipe de France est également incertain pour la prochaine fenêtre internationale avec les Bleus qui affrontent Israël et la Belgique en Ligue des Nations les 10 et 14 octobre.
Marseille candidate pour accueillir la finale de la Ligue des Champions 2027.
La ville de Marseille s'est proposée d'accueillir la finale de la Ligue des Champions 2027 après la décision de l'UEFA de retirer ce match au stade San Siro de Milan en raison de travaux programmés. L'UEFA avait annoncé que San Siro, où évolue habituellement l'AC Milan et l'Inter Milan, avaient perdu l'organisation de la finale de la Ligue des Champions 2027 car la ville de Milan ne pouvait pas garantir que le terrain et la zone environnante ne seraient pas affectés par les travaux de rénovation.
En boxe, Daniel Dubois combattra celui qui le payera le mieux entre Usyk et Joshua.
L'Anglais, qui a conservé son titre IBF des poids lourds contre Anthony Joshua, adorerait une revanche contre Joshua ou Oleksandr Usyk, selon celui qui le payerait le plus, a-t-il déclaré. Samedi, le Londonien de 27 ans a fait forte impression en conservant de belle manière son titre de champion du monde IBF des poids lourds, en mettant brutalement KO Anthony Joshua, 34 ans, au cinquième round à Wembley, après l'avoir fait tomber 4 fois au total. À la suite de sa défaite, Joshua a insisté sur le fait que sa carrière était loin d'être terminée et qu'une revanche potentielle contre Dubois ainsi qu'un autre affrontement contre Tyson Fury étaient des options possibles pour les combats à venir. Dans cette catégorie des poids lourds, le combat principal en cette fin d'année sera celui entre Oleksandr Usyk et Tyson Fury pour une revanche le 21 décembre pour les ceintures WBA, WBO et WBC.
Page des sports VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Le premier ministre guinéen est à New York dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU. Dernièrement, il a annoncé que le calendrier pour des élections ne pourra pas être tenu cette année comme prévu initialement. Alors que la transition militaire a dépassé 3 années, un projet de nouvelle constitution va être soumis à référendum au mois de décembre, selon Amadou Ouriba, qui a précisé à VOA Afrique que l'élection présidentielle se tiendra après le référendum constitutionnel, donc en 2025.
Donc, nous allons, après le référendum constitutionnel, nous irons directement à la présidentielle pour parachever ce processus qui, pour la mise en force des institutions de la République, nécessite que le pouvoir exécutif soit démocratiquement installé afin de mettre la suite selon un calendrier, un agenda et dans une logique de stabilisation tout en instituant ces nouvelles institutions de la République.
Nous avons entendu récemment le porte-parole de la présidence et il me semble aussi le porte-parole du gouvernement dire qu'il ne verrait pas d'inconvénient à ce que M. Mamadi Doumbouya puisse se présenter notamment. Est-ce que cela veut dire qu'à un moment donné, on pourrait faire sauter ce verrou et que effectivement les militaires, en tout cas le général Mamadi Doumbouya pourrait se présenter?
La question fondamentale autour de l'avant-projet constitutionnel et l'esquisse de la proposition constitutionnelle, c'est de faire en sorte que personne ne soit exclu, disons, de l'espace démocratique. Donc, aussi bien le général Mamadi Doumbouya que d'autres, dans le cadre de du rassemblement, disons, de faire en sorte que la Constitution ne soit pas orientée de manière personnel, il va de soi que tous les cas de figure que vous avez esquissés sont tout à fait possibles.
Vous avez été opposant. Aujourd'hui, les Guinéens sont toujours interdits de manifestation. Et quelle est la position du gouvernement pour justifier cette mesure en vigueur?
Vous savez, lorsqu'on a traversé plusieurs épreuves, on en tire des leçons. Lorsque la situation s'améliorera, les institutions démocratiques seront installées, il va de soi, libre à chacun d'exprimer par les voies démocratiques, légales, leurs divergences.
Nous savons que le Mali, le Niger, le Burkina Faso sont aussi des régimes militaires issus de coups d'État, comme la Guinée. Quelle est votre vision sur ces 3 pays finalement et quel est votre mode de communication avec eux, ces pays dans votre région?
Hier, j'étais avec en aparté avec le ministre malien, je leur ai dit, vous avez la possibilité de rester dans l'AES, mais sachez que l'AES peut être une sous-organisation dans le cadre de la CEDEAO de manière globale. Nous avons des acquis que d'autres régions d'Afrique étaient nous jalousées. Donc, pour des intérêts conjoncturels, certes difficiles, il ne faut pas se détourner de l'organisation qui est celle qui a plus de 50 ans, qui est la CEDEAO.
Amadou Ouriba, Premier ministre de la Guinée, répondait aux questions de Nathalie Barge pour l'entretien intégral. Rendez-vous sur voafrique.com. L'intellectuel sénégalais Amadou Makhtar Mbo, qui a dirigé l'UNESCO pendant 13 ans, est décédé dans la nuit de lundi à mardi à Dakar à l'âge de 103 ans. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a déploré la disparition d'un grand défenseur du multilatéralisme. Eric Manirakiza a joint le sociologue Mahamadou Lamine Senga, professeur à Worcester Polytechnic Institute, auteur de Amadou Makhtar Mbo, une légende à raconter.
Nous avons perdu un grand homme. Amadou Makhtar Mbo a représenté bien plus qu'un modèle à suivre pour moi. Il a été un mentor, un guide, un homme avec qui j'ai partagé des moments forts, empreints de respect mutuel et de compréhension. Parmi les souvenirs les plus marquants de notre relation, je me rappelle des moments où il m'a raconté son enfance.
Il représente l'incarnation des valeurs d'amitié, de compassion, de solidarité et surtout d'humilité. des valeurs qu'il a acquises lors de son enfance dans le monde rural sénégalais. Et ce sont ces valeurs qu'il a portées jusqu'au plus haut point lorsqu'il est devenu directeur général de l'UNESCO. Amadou Maktambo a d'abord été ce jeune rentré très tard à l'école après avoir fini l'école coranique à l'âge de 9 ans. Ensuite, il a continué jusqu'au moment où on l'a recruté pour faire la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est d'abord échappé, libéré. Il est parti une deuxième fois, c'est pour montrer son courage. Il a continué ainsi pour faire ses études en France. À son retour de France, il a contribué à l'instauration de ce qu'on appelait l'éducation de base, c'est-à-dire dans les villages, apprendre aux populations la manière dont ils doivent construire leur vie à partir des instruments de la science et de la technologie de l'époque. Et ensuite, Amadou Maktambo, comme vous le savez, au niveau de la loi cadre en 1957, a été le premier à être ministre de l'Éducation nationale du Sénégal. Ainsi de suite, il a eu des relations à la fois complexes et honnêtes avec les combattants de son époque, tels que Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia, Lamine Gueye et les autres. Voilà la vie d'un homme qui ne cessera d'incarner la lumière pour les générations africaines.
Comment décririez-vous l'héritage d'Amadou Maktambo, en particulier dans son engagement pour une éducation plus juste et l'égalité entre les cultures à l'échelle mondiale?
Je pense que Amadou Maktambo a compris que c'est par l'éducation qu'on peut libérer l'homme. Et je pense que de toute son œuvre, c'est de fait que l'éducation doit se faire non seulement à partir des méthodes, des outils dont on dispose du point de vue de la modernité, mais aussi elle doit s'inspirer des valeurs sociales et culturelles des populations. Et sur ce plan-là, je pense qu'il a contribué déjà en faisant faire l'histoire générale de l'Afrique, en étant le premier à demander, par exemple, le rapatriement des objets d'art africains qui ont été spoliés par le colonialisme. Et je pense que donc le point le plus marquant pour lui, c'est que l'éducation doit commencer à la base, mais elle doit aussi être quelque chose qui doit servir le développement et la libération, l'émancipation des populations.
Le sociologue Mamadou Lamine Sagna, auteur de Amadou Maktambo, une légende à raconter.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
D'intenses combats se sont poursuivis mardi entre Israël et le Hezbollah, alors que l'armée israélienne continuait ses attaques contre des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban. Selon les autorités libanaises, plus de 550 personnes ont été tuées dans les frappes. Linda Grashtein en parle dans ce reportage relaté par Gabi Dorsil.
Des dizaines de milliers de résidents du sud du Liban ont fui leur foyer depuis qu'Israël a lancé ses frappes aériennes contre des cibles du Hezbollah la semaine dernière. Israël accuse le Hezbollah de stocker des roquettes et des missiles dans des zones civiles et a averti les habitants de fuir. Fatma Ibrahim Shebab a été déplacée de son domicile dans le village libanais de Toul.
Ils ont frappé juste à côté de notre maison et notre bâtiment tremblait. Nous étions très stressés, c'est pourquoi nous avons dû partir et venir ici. On nous a dit que c'était sûr ici. La situation est vraiment tragique.
Israël a également frappé Beyrouth pour la quatrième fois depuis le début des hostilités il y a près d'un an. Les forces de défense israéliennes affirment que la cible était le chef de l'unité des missiles du Hezbollah. Selon les rapports, il a été tué. Les autorités libanaises ont déclaré qu'au cours des deux derniers jours, au moins 94 femmes et 50 enfants ont été tués. Les responsables israéliens affirment que le Hezbollah a subi un coup dur cette semaine après que des milliers de beepers appartenant à des membres du groupe ont explosé simultanément. Le général à la retraite Yaakov Amidror est chercheur à l'Institut juif d'Amérique pour la sécurité nationale.
Dans l'ensemble, c'est un succès majeur d'avoir éliminé les commandants et la direction du Hezbollah en frappant des cibles très stratégiques au Liban. Mais il faut rester prudent. Ce n'est que le début. Il faudra du temps pour éliminer toutes les capacités du Hezbollah.
Le Hezbollah a également continué à tirer des roquettes sur le nord d'Israël. Plus de 100 missiles ont blessé plusieurs Israéliens et forcé les habitants à se réfugier dans des abris anti-bombes. Malgré l'intensité des combats, les deux camps semblent éviter une guerre totale. Israël n'a pas envoyé de troupes terrestres au Liban et le Hezbollah n'a pas visé le centre d'Israël. Cependant, Amir Dror souligne qu'Israël souhaite établir une zone tampon entre la frontière libanaise et le fleuve Litani.
Si aucune entité extérieure, que ce soit les Américains, les Français ou d'autres, ne parvient à un accord garantissant que le Hezbollah reste au nord du Litani, nous devrons probablement envoyer des troupes terrestres pour nettoyer la zone des rampes de lancement du Hezbollah et établir une zone de sécurité empêchant l'accès aux membres du Hezbollah.
Les préoccupations internationales croissent face à la possibilité que le conflit entre Israël et le Hezbollah ne dégénère en une guerre régionale à grande échelle, ce qui pourrait entraîner l'intervention d'autres nations. Joseph Borrell est le chef des affaires étrangères de l'Union européenne.
Nous devons continuer à appeler à un cessez-le-feu immédiat de chaque côté de la ligne, tout comme pour la situation à Gaza. Elles sont liées. Elles sont étroitement liées. Ce qui se passe à Gaza déclenche d'autres scénarios de guerre.
S'exprimant hier aux Nations Unies, le président Joe Biden a affirmé sa détermination à empêcher une guerre régionale et a appelé à une solution diplomatique entre Israël et le Hezbollah, ainsi qu'entre Israël et le Hamas à Gaza.
Bien que l'Amérique ait connu plusieurs partis politiques au cours de son histoire, le système actuel ne laisse véritablement la place qu'à deux formations politiques, les démocrates et les républicains qui dominent l'arène politique. Michel Joseph nous en dit plus.
La domination du système bipartite peut sembler étrange. La Constitution américaine ne dit rien sur les partis politiques. Et George Washington lui-même, le premier et le seul président élu sans représenter un parti politique, a mis en garde contre les partis politiques dans son discours d'adieu. Mais avant même que Washington ne quitte ses fonctions, deux factions s'étaient formées au sein de sa propre administration et elles allaient devenir les premiers partis politiques du pays. Depuis lors, les partis se sont parfois divisés ou dissous et de nouveaux partis se sont formés pour les remplacer. Mais ces bouleversements s'installent généralement dans un nouveau système bipartite. La principale raison de ce schéma est que le système électoral américain repose essentiellement sur le principe du « winner take all », selon lequel les électeurs ne peuvent choisir qu'une seule option et le candidat qui obtient le plus de voix remporte l'élection. Si ce système a l'avantage de la simplicité, il encourage les différentes factions et les différents intérêts à se regrouper au sein d'un même parti pour avoir une chance de vaincre leur adversaire, qui bien entendu feront de même. En revanche, les pays où les élections sont multipartites ont souvent recours à la représentation proportionnelle dans laquelle chaque parti obtient un nombre de sièges parlementaires correspondant à sa part de voix. D'autres systèmes incluent le choix classé ou le vote à plusieurs tours qui permet aux électeurs d'exprimer des préférences plus particulières tout en sachant qu'ils pourront déplacer leur vote vers un candidat plus viable si nécessaire. Cependant, même les élections multipartites aboutissent souvent à une coalition libérale ou de gauche contre une coalition conservatrice ou de centre-droit. D'une certaine manière, le système bipartite reflète simplement la nature de l'échiquier politique. Jusqu'à présent, aucun candidat d'un parti tiers n'est devenu président aux États-Unis. Ces candidats sont souvent accusés de jouer le rôle de trouble-fête en détournant des voix potentielles du candidat du parti principal, considéré comme idéologiquement plus proche de leur position. Néanmoins, alors que les électeurs se sentent de plus en plus insatisfaits de leur option, le cycle électoral de 2024 a vu de nouveaux appels à la réforme électorale et au soutien de candidats tiers tels que Cornel West et Robert F. Kennedy Jr. En fin de compte, tout se jouera entre les deux principaux candidats, Donald Trump et Kamala Harris, dans un scrutin qui s'annonce très serré.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ses micros, à la mise en onde, Michel Joseph. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.